Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Notre contre-histoire d'aujourd'hui veut rappeler à tous que tous les Rémi Fraisse, Cédric Chouviat, Zied Ebouna, Steve, Al-Hussein, Naël, Adama, Zineb et les quelques 700 autres décédés violemment depuis 1977 ne sont pas morts par accident, mais ont été assassinés par la police. Beaucoup d'autres sont restés mutilés par les forces de l'ordre, aussi appelés gardiens de la paix par notre République. En décembre 2020, a été publiée la lettre de démission du secrétaire général du syndicat Vigipolis, Alexandre Langlois, policier digne et en colère de voir une institution à la dérive. Voici donc ce courrier, adressé à Gérald Darmanin. Vous êtes bien sur Canal Sud, merci à vous. Monsieur le ministre, lorsque je me suis engagé dans la police nationale, j'avais à l'esprit deux maximes de Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a que la force de l'État qui fasse la liberté de ses membres. Et d'autre part, que seule l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. Or, aujourd'hui, je constate qu'il n'est plus question pour le peuple d'obéir aux lois auxquelles il a lui-même consenti, et que le rôle de sa police n'est plus de protéger ses libertés, mais plutôt de toutes les annihiler, comme le ferait le plus vil des oppresseurs. Qu'est devenue la police nationale depuis 2014, elle qui se devait d'être la garantie des libertés? Ne mérite-t-elle pas mieux que d'appliquer à la lettre des lois de plus en plus liberticides et autoritaires? En pareille situation, peut-on encore parler d'une police républicaine? Ou ne s'agit-il plus que d'une milice au service de votre autoritarisme? Mon engagement dans la police nationale ne peut plus se maintenir dans un tel régime sans aucun espoir de réforme, tel que vos prises de position récentes le laissent présager. De surcroît, votre ministère, pourtant celui qui distribue le plus de sanctions disciplinaires contre ses personnels, se fait beaucoup moins strict contre les policiers qui tabassent, mutilent ou tuent des innocents, comme Mme Zineb Redouane, M. Steve Canico ou M. Cédric Chauviat, comme Rémi Fraisse, comme Zied Ebouna. Tandis que les policiers, qui au contraire dénoncent ces dérives et dysfonctionnements, se font purement réprimander au motif qu'ils ne respecteraient pas la loyauté envers leur hiérarchie ou porteraient atteinte au renom de la police nationale. Tel n'est pas le comportement que la population attend de ses responsables politiques. Suite à la mort de Malik Houssekine le 6 décembre 1986, M. Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, non seulement présenta ses excuses en personne à la famille, mais de surcroît prit la décision de dissoudre les voltigeurs. Depuis le début de ce quinquennat, c'est l'inverse qui est pratiqué. On nie les faits. On ne présente jamais d'excuses et on recrée les voltigeurs, que l'on rebaptise Brave M. Les policiers sont depuis lors au service d'un président de la République qui les utilise pour réprimer avec violence tout mouvement social contestataire, tel que les gilets jaunes, mais également les infirmières, les pompiers, les médecins, les avocats, au lieu de leur permettre de manifester leurs revendications de manière encadrée et sécurisée. Depuis la crise Covid-19, les policiers sont désormais exclusivement affectés au contrôle social et non plus au respect du code pénal. Les décrets et arrêtés préfectoraux les plus incohérents et absurdes ont remplacé les lois autrefois votées par nos assemblées. Nous contrôlons des attestations de déplacement et veillons au bon respect des distanciations sociales pour lutter contre l'épidémie. Or, si tel était réellement le but de notre action, c'est le personnel hospitalier qui aurait dû avoir des renforts. Et on parlerait plutôt de distanciation sanitaire. Au lieu de cela, on nous détourne de nos vraies missions, qui sont de poursuivre les délinquants et les criminels, et d'assurer la paix et la sécurité de nos concitoyens. Le 26 novembre 2020, M. David Perrotin, journaliste à Loopsider, présentait la vidéo d'un homme littéralement passé à tabac par trois policiers entrés par effraction sur son lieu de travail et en dehors de toute commission rogatoire.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression.
Sur la vidéosurveillance des locaux, on peut notamment entendre les policiers le traiter de sale nègre avant de braquer une arme contre lui en présence d'autres personnes dont l'une serait mineure. Cet événement honteux, tout autant que les réactions du ministère qui s'en suivirent, a renforcé ma conviction de mettre fin à mes fonctions. Tout autant que les réactions habituelles de mes collègues, dont un délégué du syndicat Unité SGP Force Ouvrière, organisation que vous recevez régulièrement, a pu dire dans une émission de télévision que « Bamboula, c'est encore à peu près convenable », sans subir la moindre sanction ou autre forme de poursuite de la part du ministère. La seule défense tenable, bien que fantaisiste, du préfet de police M. Didier Lallemand, à propos de l'interpellation susmentionnée, a ainsi été de dire qu'il n'était pas au courant. Alors même qu'il y a eu un appel de renfort, une sortie d'armes et un tir de grenade dans un lieu clos. Mais qu'attendre d'un préfet de police qui a obtenu sa promotion de Bordeaux à Paris en couvrant déjà des exactions de policiers par des mensonges dans l'affaire Olivier Béziade, et à qui vous renouvelez encore votre confiance, malgré qu'il ne soit pas dans le même camp que la population, ou qu'il ordonne une évacuation brutale de la place de la République encore récemment. Votre tweet hypocrite a fini de sceller ma décision. Je me félicite que l'IGPN ait été saisi par la justice dès mardi. Je demande au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. Je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais. Hypocrite. Lorsque l'on sait que par l'effet de la loi sécurité globale que vous défendez bec et ongles par la propagande et le mensonge, cette victime aurait fini en prison et ses tortionnaires médaillés ou encore primés. Oui, vous mentez, monsieur le ministre, lorsque vous prétextez vouloir protéger les policiers en prévoyant un an d'emprisonnement pour diffusion d'images de policiers identifiables, quand les textes existants sur le harcèlement et les menaces prévoient déjà des sanctions 2 à 5 fois plus importantes, mais qui ne sont dans les faits jamais appliqués. Appliquons ce qui existe, plutôt que de brader la sécurité physique et mentale des policiers pour des éléments de communication. Quand des collègues CRS reçurent des menaces de mort à leur domicile par courrier, Était-ce dû à la diffusion de leur image? Non. Mais à la publication par votre ministère de leurs prénoms, noms et affectations au journal officiel. Est-ce qu'une quelconque mesure a été prise depuis? La réponse est encore une fois non. Vous osez dorénavant instrumentaliser le drame de l'assassinat de nos deux collègues de Magnanville par un terroriste. Pourtant, ont-ils été assassinés chez eux suite à la diffusion de leur image? Une énième fois, non. Mais suite à l'absence de sécurisation des données des ressources humaines qui se baladaient sur une clé USB non sécurisée par le ministère de l'Intérieur et transmise à un syndicat de police. Des mesures ont-elles été prises depuis? La réponse est encore une fois et toujours négative. Si vous aviez un tant soit peu de respect pour les femmes et les hommes qui portent l'uniforme, comme moi, vous démissionneriez. Dois-je encore vous rappeler que la première cause de mortalité des policiers en fonction est le suicide? Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est quelques 150 vies sacrifiées. Était-ce à cause de la divulgation de leur image? Je ne le crois pas. Mais suppute plutôt un management délétère, des injonctions paradoxales, une politique du chiffre, la perte de sens de notre métier et de la fonction. Des mesures ont-elles été prises? Pas vraiment. Mis à part deux numéros verts et des barbecues conviviaux. Enfin, faut-il rappeler que le ministère de l'Intérieur ne respecte même pas les décisions de justice le condamnant, pour, en ce qui me concerne personnellement, le refus d'exécuter, malgré 4 demandes, le jugement du tribunal administratif de Versailles, numéro 150-53-55, le reconnaissant coupable de discrimination syndicale. Pire, la discrimination a depuis lors repris de plus belle et j'ai été arbitrairement désarmée, sans contrôle de la médecine statutaire, et mes notes de renseignement ne sont plus transmises, et ce, sans justification. Depuis ma première demande de rupture, en juillet 2020, mon dossier aurait dû être traité au plus tard en septembre. Mais même pour cela, le ministère ne s'estime pas contraint de respecter la loi et les délais, ce qui engendre encore un préjudice à mon encontre. À moins que ce ne soit dans l'objectif de me sanctionner une nouvelle fois arbitrairement et d'éviter ainsi de me payer les indemnités légales. Pour l'ensemble de ces raisons, je sollicite, monsieur le ministre, ma rupture conventionnelle dans les meilleurs délais. Je quitte un métier que j'aimais, car vous avez fini de dénaturer la noble mission pour laquelle je m'étais engagé. Je quitte la police nationale pour les mêmes raisons que j'y suis entré, la défense des libertés individuelles et de l'intérêt général. Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de mes salutations républicaines. Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat Vigipolice.
Et la justice, qu'en pense-t-elle, puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État.
C'était donc la lettre de démission d'Alexandre Langlois, secrétaire du syndicat Vigipolice, en date du 20 décembre 2020. Le 29 juillet 2023, dans un témoignage sur Mediapart, on peut lire ce billet, extrait du blog d'un policier anonyme, lettre ouverte à mes collègues et à ma hiérarchie. Non, toute la police ne souhaite pas user impunément de la violence. Non, toute la police ne revendique pas le droit d'être jugée par des juridictions d'exception. Non, toute la police ne désire pas une fuite en avant toujours plus sécuritaire, servie par des intelligences artificielles, des robots, des caméras, des drones et autres techno-gadgets, sans considération du scénario dystopique qui se dessine. Non, toute la police n'est pas solidaire du comportement de policiers qui se rendent coupables de crimes dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, il existe une police qui se conforme aux principes constitutionnels de la République. Oui, il existe une police républicaine dont l'objectif est de protéger ses concitoyens, y compris des excès et des abus dans ses propres rangs. Oui, il existe une police qui ne considère pas une partie de la population comme nuisible. Aujourd'hui, ceux qui menacent l'ordre public et nos principes ne sont pas tant ces quelques collègues qui témoignent maladroitement et illégalement de leur colère. Ce sont les quelques hauts fonctionnaires qui répandent des idées factieuses en réponse à leur malaise. De nombreux policiers sont fatigués, déboussolés et ne comprennent pas la violence quotidienne dont ils sont parfois l'objet. Une violence dont notre président a dit vouloir chercher les causes profondes. Cette violence dont le premier commanditaire est le gouvernement. Elle use les policiers et les place dans une situation intenable. Oui, les policiers vont mal et souffrent dans leur travail. Ce mal-être les pousse parfois à se retrancher derrière des positions radicales, derrière des comportements inadaptés, et les conduit parfois à retourner cette violence contre eux au point de mettre fin à leur jour. N'oublions pas que la police nationale connaît le plus fort taux de suicide, toutes catégories socio-professionnelles confondues, en France. Tout cela reste ignoré de nos responsables administratifs et politiques. Et votre seule réponse à ce désarroi structurel et à cette colère est de proposer à la police d'être déresponsabilisée par la création d'une juridiction d'exception, par la remise en cause de l'article 144 du Code de procédure pénale et par la critique de la justice.
Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumise, je suis un citoyen de France.
L'article 144 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 24 novembre 2009, précise « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. Premièrement, conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la liberté. Deuxièmement, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leurs familles. Troisièmement, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou complices. Quatrièmement, protéger la personne mise en examen. Cinquièmement, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. Sixièmement, mettre fin à l'infraction ou prévenir de son renouvellement. Septièmement, mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public provoqués par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. Aucune de vos réponses ne cherche à préserver les fonctionnaires, autrement qu'en proposant des solutions dérogatoires aux dispositions législatives. L'égalité de tous devant la loi est un principe fondateur de notre société. La majorité des policiers ne souhaite pas transiger sur ce principe et s'engager sur cette voie mortifère pour la démocratie. Aucune de vos réponses ne cherche à enrayer les causes profondes de la violence sociale qui secoue notre société et à laquelle la police répond par une violence encore plus grande. Aujourd'hui, la police nationale fait entendre son mécontentement à votre encontre. Elle le fait non pas pour obtenir le droit de mutiler, torturer ou tuer, mais simplement pour ne pas être la meute de chiens de garde que l'on siffle pour mettre fin aux troubles sociaux. Ces mouvements qui secouent notre société depuis des mois, des années, et pour lesquels vous n'avez pour seule réponse que violence et répression. Au-delà de la nécessaire subordination hiérarchique, la police n'est pas aux ordres du seul pouvoir, mais au service de tous. Oui, il existe une police républicaine qui désire œuvrer pour la sécurité commune de ses concitoyens et qui refuse de servir d'outil de répression. C'est à celle-ci que je souhaite appartenir. Et c'est signé Étienne Préau, policier depuis 1996, brigadier-chef, officier de police judiciaire. Vous écoutez Contre-Histoire. Merci à vous d'être fidèle à Canal Sud. Et voici quelques commentaires inspirés aux lecteurs par cette lettre ouverte fin juillet 2023, après les manifestations consécutives aux assassinats policiers du mois de juin. Oui, votre analyse est pertinente et juste, mais où sont ces policiers au service des citoyens? Leur silence est inquiétant. C'est cette police-là que nous soutenons, que nous respectons. Il est urgent qu'elle se manifeste. Pour les entendre, encore faudrait-il leur donner la parole. Par exemple, au secrétaire du syndicat CGT Police, qui récemment a eu une tribune dans Le Monde. Les policiers sont comme tout le reste de la société. Devant la libération des paroles et des actes racistes, tout le monde tourne la tête. Pas de vagues. C'est ce qui les gère. Quand la hiérarchie couvre, c'est encore pire. Et une bonne adresse. Voir sur le site Le Média. Darmanin, IGPN, syndicat factieux, ce policier révolté dénonce. Vous retrouverez le lien complet sur le podcast. Et si ce policier est identifié, ça va barder pour son matricule. Et Claude, on se retrouve avec beaucoup de gendarmes et de policiers ayant un comportement absolument ignoble. Que dire du fait que depuis des années, aucun ou presque policier ou gendarme ne hausse la voix contre, car c'est devenu systémique de mutiler, blesser, arrêter, mentir et condamner. Retraités, écologistes, tous les corps de métier qui ont osé manifester, en passant même par des avocats, ont subi le courroux de la police, des dizaines de milliers d'arrestations arbitraires, des centaines de mutilés et des milliers de blessés graves. Évidemment des morts, femmes âgées ou adolescents, tout y passe. On entend les policiers appeler à raison et à ne pas prendre la police en grippe, que ça va pas, qu'ils souffrent, comme les infirmiers qui se faisaient pruner ou les pompiers qui se sont fait tabasser par les CRS à Paris. Si ça ne va pas, quitter la fonction. Ceux qui ne quittent pas et n'agissent pas, alors peut-être que la situation leur convient. Chacun a ses limites. Je n'ai plus d'empathie pour cette fonction et le mutisme quasi général de la fonction policière. Après tout, les seuls à se faire entendre, ce sont ceux qui veulent que les collègues ayant tabassé Heidi à mort soient libérés. Non ? Et en rajoute, Malheureusement, les quelques policiers qui se manifestent pour dénoncer le comportement abject et criminel de leurs collègues, ils le font après être partis de la police ou sous le sceau de l'anonymat. Cela nous donne à penser qu'ils sont ultra minoritaires, et c'est plus qu'inquiétant. Les policiers criminels, eux, tentent de maquiller les faits et sont couverts par leurs collègues. Policier est un métier difficile, d'où l'importance de la sélection, de la formation et d'un encadrement à la hauteur. Mais quand les plus hauts placés dans la hiérarchie accompagnent un gouvernement qui a perdu tout repère, l'instant est extrêmement grave, y compris pour les quelques policiers qui connaissent leur véritable rôle dans la société. Lorsque je verrai un policier en arrêter spontanément un autre pour violence, pour meurtre ou pour avoir falsifié un rapport d'intervention, je commencerai à voir l'institution différemment. Ce n'est manifestement pas près d'arriver.
Quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience.
Et voilà le point de vue que nous retrouverons. Le très gros problème, c'est la surenchère permanente d'une certaine base qui impose sa vision factieuse à des syndicats à la ramasse qui se radicalisent à l'extrême droite de plus en plus. Cette radicalité est aussi ce rêve d'en finir avec la démocratie déjà terriblement mise à terre par la Macronie, de passer à un régime policier autoritaire avec une police enfin débarrassée des codes, règles et déontologies, enfin libre de sa soumission au pouvoir politique faible. Le problème, c'est aussi le soutien affiché de la hiérarchie. C'est le sac de nœuds issu de la sur-instrumentalisation de la police comme barrière à toutes les protestations, manifestations, grèves, mouvements sociaux et écolos pour réprimer. Et comme unique réponse de l'État, à chaque fois, l'État répond « police ». C'est la dépendance de l'État à la police qui assure le service après-vente des lois dégueulasses, antisociales, anti-écolo. La soumission aux ordres, le plaisir à tabasser, à casser du gauchiste, à donner libre cours à des pulsions de violence tout en sachant qu'elles sont permises, jamais ou très rarement sanctionnées. Et quand il semble qu'une enquête est en cours, cela devient inadmissible pour les collègues. Comment réussir à sauver la police de la police? Mission impossible vu que la politique abdique face aux plus extrémistes. Le piège s'est refermé et le politique est à la botte de sa police représentée par les plus extrémistes, de droite bien entendu. Darmanin s'est fait piéger et n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Ça l'arrange aussi, car ainsi il endosse les habits noirs de l'extrême droite dont il va avoir besoin pour son minable plan de carrière. Ni Darmanin et encore moins Macron ne vont changer quoi que ce soit dans la marche des affaires de la police. Au contraire, cette police est bien trop précieuse à ce pouvoir défaillant, autoritaire. Il a besoin de cette police violente et brutale. Il va lui donner tous les gages qu'elle exige sous l'œil de toute l'extrême droite qui est déjà au pouvoir. Le vote barrage qui a servi Macron a uniquement permis de lui donner des suffrages de plus pour enfin mettre en place un régime autoritaire au service de la bourgeoisie. Il faudrait un raz de marée de policiers comme l'auteur de ce billet. Et un raz de marée de gens opposés à ce pouvoir qui utilise sa police comme bouclier face à toute la casse sociale et à l'inertie climatique. Ces cognes qui pensent sauver leur miche et celle de leurs enfants des dégâts climatiques, comme les cognes de Sainte-Soline, tout fiers de leur dispositif militaire à base de milliers de grenades tirées indistinctement sur des femmes, des enfants, des personnes vulnérables. Mais il faut quand même avoir une certaine appétence pour le faire sans sourciller. Et cite le policier anonyme du blog que nous lisons. Oui, il existe une police qui se conforme aux principes constitutionnels de la République. Oui, il existe une police républicaine dont l'objectif est de protéger ses concitoyens, y compris des excès et des abus dans ses propres rangs. Elle est où, cette police-là? Vous êtes combien? 4? 12? Désolé si vous êtes sincère, mais moi j'ai plus confiance. La police jamais ne sera une autre police. Elle répond très bien à l'ordre, celui de la bourgeoisie. Croire en une police républicaine est le leurre absolu de ce régime bourgeois. Nous sommes des enfants, et c'est en enfants que le pouvoir nous considère. À croire au Père Noël, à la démocratie, aux élections et à une police autre. Dans 15 juillet sanglant de 1953, Maurice Rachefus a dit « L'appareil répressif ne desserre jamais les mâchoires lorsqu'il tient une proie. Quelle que soit la nature de son délit, le policier n'est jamais un criminel. Il peut violer la loi si ses chefs lui expliquent qu'il la défend. Il peut commettre des actes iniques, pervers, et même provoquer le désordre au nom de l'ordre. Si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu résistes, il y a rébellion. Si tu prends la foule à témoin, il y a incitation à l'émeute. » Analyser le comportement de la police française sous Pétain peut aider à comprendre son attitude en toute période plus ou moins troublée. La traque aux Arabes et aux Noirs, en régime démocratique, ne lui pose pas davantage de problèmes que la chasse aux Juifs sous l'occupation nazie. L'ordre public n'a pas de morale. Ces citations sont extraites de l'ouvrage de Maurice Rachefus, « La police de Vichy », paru en 1995. Et nous annonce « Pour info, une initiative citoyenne dans le même sens, plan de réforme de la police. » Lien cité, bien sûr, sur le podcast. Visiblement, un copier-coller du plan LFI NUPES, publié fin juin. Et il y a déjà eu une pétition concernant la dissolution de la brave M, il me semble, au premier trimestre 2023, avec un maximum de votes. Et l'Assemblée nationale a trouvé le moyen de l'anéantir dans l'œuf, avec un faux vote de commission. On peut voter pour cette pétition, mais les démons LREM, à la solde de Macron, de l'Assemblée nationale, ne la laisseront pas passer. Tant de braves Français ne se sentent ni juifs, ni d'origine noire, ni arabes, ni femmes, ni roux, ni homosexuels, ni syndiqués, ni pauvres, et adorent leur police et leurs députés, riches et de droite. Et voici, nous avons vu la répression sur le jeune syndicat Vigipolis et nous avons vu comment des policiers d'origine familiale issus des anciennes colonies ou des femmes ont été harcelés, humiliés, éliminés sans soutien de la hiérarchie. Peut-on parler d'une épuration en cours, du piège en terrorisme d'État qu'a été l'opération Sainte-Soline, de l'éviction d'associations citoyennes de défense des droits ou de défense de la nature et de la vie, tous traités en ennemis, options qui viennent des plus hauts niveaux de l'État. Et nous signale, n'étant absolument pas informée, je suis allée me renseigner sur Vigipolis. Et entre autres, j'ai trouvé ce lien dans le Figaro. Si le Figaro s'y met, le pouvoir devrait faire attention. Et s'ensuit un lien très long que vous retrouverez bien sûr sur le podcast. Et le Média a diffusé un certain nombre d'interviews d'Alexandre Langlois, le secrétaire national, ainsi que du numéro 2 de ce syndicat. Et le fruit est pourri de l'intérieur, et quand la hiérarchie soutient les factieux, pas facile de dire ouvertement ce que l'on pense. Notre histoire est là pour en témoigner. Pendant l'occupation, il ne faisait pas bon être opposé au maréchal Pétain. Si j'ai bien lu, après la victoire, nos forces de police trop à gauche ont été virées pour ne garder que ceux qui étaient à la botte du gouvernement et n'avaient pas trop résisté dans la résistance. Respect et remerciements pour ce policier qui nous fait penser que tout n'est pas perdu. Même en haut lieu, il me semble avoir entendu que tout ne se passe pas si bien. Des réticences s'expriment. Alors ne désertons pas notre camp. Ils seront toujours moins nombreux que nous. Dénoncez-vous, monsieur Préau, et quand vous serez viré, nous vous promettons de taper très fort sur notre clavier. Monsieur Préau n'est pas un révolutionnaire. Il est un policier en désaccord avec ce qu'il vit. Mais il reste un policier républicain, ce qui n'est pas si mal, vu le contexte actuel. Je vous rappelle que des millions de femmes et d'hommes n'ont pas réussi à faire reculer ce président et ses godillots qui nous ont imposé cette réforme des retraites qui a créé dans notre pays ce désordre, qui a entraîné ce climat de défiance qui existait déjà envers le pouvoir politique, contre notre police, dont la fonction n'est pas, dans une démocratie républicaine, d'être utilisée contre le peuple souverain, qui ne fait qu'exercer son droit constitutionnel. Il est là le malaise. Et l'attitude de certains syndicats policiers est pour le moins incompréhensible du fait que majoritairement ils étaient contre cette réforme, comme 93% des salariés du pays. Qui manipule qui ? Et ces policiers et leurs arrêts de maladie actuels, les cagnottes qu'ils lancent en soutien à leurs collègues meurtriers, leurs choix syndicaux, montrent qu'ils sont dans une position de force comme aucun autre métier et qu'ils semblent vouloir garder cette position à tout prix. Non, la police ne doit pas répondre par une violence encore plus grande. La police se mobilise quand on veut interdire le plaquage ventral et quand les agents violents sont en procédure judiciaire. Ce sont des moments très précis. C'est quand on veut leur limiter la possibilité de tuer. Le gouvernement sait très bien qu'il est mal aimé par la police. Pourquoi ? C'est difficile à comprendre, car il leur donne tout sans concession. Peut-être parce que la seule force politique qui correspondra aux requêtes majoritaires de façon complète et totalitaire est fasciste. On le voit, c'est sous nos yeux. Le reconnaître mettrait un peu moins de flou dans la situation, ça rétablirait un peu la vérité. Eben nous précise « Je suis persuadée qu'il existe beaucoup de policiers dans votre cas, monsieur. Je me souviens qu'au tout début du mouvement des Gilets jaunes, les policiers n'étaient pas dans la répression. Il y avait même une certaine convivialité, sinon de la compréhension envers ces mouvements sociaux qui restaient bon enfant, hélas. » Il a suffi que des cagoulés habillés en noir surviennent, attaquent quelques policiers de façon violente et que cela soit monté en mayonnaise par les médias. Le feu aux poudres avait été lancé. Depuis, l'on ne cesse de monter la police contre les citoyens et vice-versa. À qui cela profite ? Ni aux citoyens ni aux policiers. Et je reprends. Il a suffi que des cagoulés habillés en noir surviennent et attaquent quelques policiers de façon violente. Bien avant les gilets jaunes, il y a eu des grandes manifestations où des cagoulés sortaient d'immeubles, foutaient la merde et repartaient derrière les lignes de flics. Juste avant, ils mettaient le brassard police. Ça a été filmé. En cherchant bien, ça devrait se retrouver sur le net. Vers la même époque, lors d'un G7 en Allemagne, les manifestants avaient interpellé un type qui exhortait à attaquer et à jeter des projectiles sur les flics. C'était un flic, il avait ses papiers sur lui. Un lien très intéressant. Sur Wikipédia, recherchez Jean-Hugues Matély, M-A-T-E-2-L-Y. Et déposer plainte dans un commissariat est une loterie. Malheureusement, la loi française incite depuis quelques années les plus mauvais des policiers à se plaindre d'outrage pour récupérer des petites sommes d'argent qui s'accumuleraient pour certains policiers, et transformer une victime de maltraitance policière en victime de bavure policière. Une plainte pour outrage ou une menace de plainte pour outrage permet aussi d'intimider un plaignant et de se débarrasser des affaires gênantes qui demanderaient du travail ou risqueraient de mécontenter le maire de la commune. Supprimer les compensations financières personnelles pour délits d'outrage ne résoudrait pas miraculeusement le problème de la fréquence des bavures, mais supprimerait déjà une motivation crapuleuse. Et la chaîne Le Média complète. Mais que veulent vraiment les policiers français? De nouvelles lois qui leur accorderaient une sorte d'impunité, une justice d'exception? Ou bien alors, veulent-ils prendre le pouvoir? La menace d'un coup d'État policier enfle. Le 15 juin, mort d'Aloussène, tué d'une balle dans le dos alors qu'il allait au travail à 4h du matin. Silence médiatique assourdissant, les caméras piétons des policiers tireurs étaient en panne de batterie. Après la mort de Naël fin juin, tué par un policier à Nanterre, des révoltes urbaines ont éclaté, une nouvelle fois théâtre de violences policières. Début juillet, Hedy est passé à tabac par une unité de la BAC à Marseille qui lui a fracassé le crâne et la mâchoire avant de l'abandonner pour mort. Miraculé selon les médecins, il a survécu avec d'énormes séquelles. 4 agents de police avaient été placés en gave et mis en examen pour violence volontaire. L'un d'eux est actuellement en détention provisoire, normal a priori. Mais voilà qu'en sortant de l'IGPN, ces agents ont eu le droit à une haie d'honneur et à des applaudissements de leurs collègues. Et cet activisme paye. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, a affirmé Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, partage ses propos, même si quelques jours plus tard, il dit que la police n'est pas au-dessus des lois. Gérald Darmanin a quant à lui réaffirmé son soutien et n'a pas taré d'éloge à Frédéric Vaux à la sortie de sa rencontre avec les syndicats policiers. Emmanuel Macron, de son côté, reste prudemment adepte du « en même temps », soutien au principe de séparation des pouvoirs et soutien appuyé aux forces de l'ordre. Tous les syndicats de police pensent-ils pareil? Pour répondre à cette question, vous pouvez retourner sur le site Le Média.
Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité.
Vous êtes toujours sur Canal Sud. À écouter Contre-Histoire. Merci à vous. Voici une dépêche de l'agence France Presse. Tabassage et manque de moyens. Un journaliste raconte son infiltration dans la police française. Violence, insultes racistes et homophobes, mais aussi manque de moyens, suicide et mal-être des troupes. Dans un livre publié, un journaliste raconte 2 années mouvementées d'infiltration dans la police parisienne. Violence, insultes racistes et homophobes, mais aussi manque de moyens, suicide et mal-être des troupes. Dans un livre publié, un journaliste raconte 2 années mouvementées d'infiltration dans la police parisienne. Spécialiste des infiltrations, Valentin Gendreau a voulu explorer une institution clivante avec cette méthode controversée. « Ça fait bouger les lignes », justifie l'auteur de 32 ans, de « Flic ». À l'AFP, il raconte son premier jour. La mise en service chaotique, un policier qui frappe un gardé à vue, trop bruyant. Une femme est conduite alors qu'elle vient dénoncer des menaces de mort de son mari. Passage le plus explosif de flic. Valentin Gendreau assure avoir assisté à une bavure commise par un collègue et que lui-même a dû couvrir avec d'autres policiers. Ce jour-là, la patrouille est appelée par un voisin, se plaignant de jeunes écoutant de la musique au pied d'un immeuble. Selon son récit, le contrôle dégénère quand un des policiers tapote la joue d'un adolescent, qui, en réponse, provoque verbalement le fonctionnaire. L'échange s'envenime et suivent une, deux, puis trois, puis quatre ou cinq, clac, avant que le policier ne se déchaîne à coups de poing et d'insultes sur l'adolescent, finalement embarqué au commissariat pour vérification d'identité, raconte le journaliste. Les deux portent plainte, le policier pour outrage et menace, l'adolescent pour violence. Un PV mensonger est alors rédigé pour charger le gamin et absoudre le policier, affirme M. Gendron. La police est un clan, et celui qui dénonce un traître, explique Valentin Gendron, qui explique avoir voulu contribuer à dénoncer 1000 autres bavures de ce type, en couvrant son collègue. Mais son récit évoque aussi les voitures et locaux hors d'âge, le suicide d'un collègue et l'hostilité de la population. Un gardé à vue les invite ouvertement à se suicider. Et le salaire de 1 340 € net mensuel à Paris. Il souligne que son travail n'est pas anti-flic, mais aborde les grands tabous de la police. C'est aussi dans leur intérêt qu'on parle des violences policières, toujours le fait d'une minorité, dit-il à l'AFP. Et pour le spécialiste David Dufresne, cette immersion est une nouvelle preuve du racisme systémique et des violences impunies des policiers. Pour Valentin Gendron, ce journaliste, elle n'a pas été sans conséquences. Je me rends compte qu'en 6 mois, mon niveau d'humanité et d'empathie a chuté. Comme si ce boulot m'avait vacciné contre la sensibilité, a confié Valentin.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience.
Et voici l'article de Mediapart, signé Valentine Auberti et Pascal Pascariello. Le quotidien raciste, homophobe, violent, d'un commissariat de police. Après une formation d'adjoint de sécurité, une police low cost, autant de formations de 3 mois au lieu de 12, comme celui déjà très court des gardiens de la paix. Valentin ira 1 an en préfecture, puis sera affecté dans un commissariat parisien. Pendant 2 ans, il compile ce qu'il voit et entend et écrit un livre, Flic, un journaliste a infiltré la police. Il y décrit la violence, le racisme quasi quotidien de certains policiers, et l'absurdité des missions répondant à la politique du chiffre. Dès les premiers jours, en tenue, il sera ainsi complice du tabassage d'un jeune migrant, frappé par un policier à l'abri des regards, à l'intérieur d'un fourgon, avant d'être abandonné dans un quartier très éloigné du lieu même de sa violente interpellation. Des mecs comme lui, ça mérite que la mort, lâche alors l'un des 6 agents. De cet équipage. Complice, témoin silencieux, Valentin Gendron tient ainsi les 6 mois de son immersion au sein de la police qu'il a souhaité infiltrer, pour être le premier à tenter le coup par défi personnel, et pour connaître le quotidien d'un commissariat, les violences en toute impunité, mais aussi le manque de reconnaissance des policiers. À l'école de police de Saint-Malo, Valentin a eu pour voisin de lit Romain, un catholique pratiquant, qui a longtemps fréquenté des collectionneurs d'objets à la gloire du Troisième Reich, genre buste de Hitler, et se rapproche de Mick qui surnomme les Arabes les crouilles, les gris, et qui renverrait bien les migrants dans un charter. À sa sortie, avec un salaire de 1 340 € par mois, Valentin est affecté à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Dans ce service unique en France, annexe de l'hôpital Sainte-Anne, la préfecture enferme pour 48 heures maximum des personnes atteintes de troubles du comportement et présentant un danger imminent pour la sûreté des personnes selon le Code de santé publique. Alors même que ces personnes ont droit à un avocat, Valentin n'en voit aucun durant ses 15 mois de présence. Les patients que j'ai vus arriver ici étaient tous isolés. « Ce sont des oubliés des dieux et des hommes », m'a dit un jour un infirmier. « Des personnes en crise, des toxicos, des SDF, des migrants. » En mars 2019, Valentin est muté au commissariat du 19e arrondissement. Affectation capitale pour son infiltration. Il y découvre les interpellations de vendeurs à la sauvette, opérations minables, qui permettent de gonfler des statistiques artificiellement. Et le racisme quasi quotidien de certains policiers, à l'encontre de ceux qu'ils nomment les bâtards, c'est-à-dire un mec plutôt jeune, noir, arabe. Parfois, il est aussi migrant. Dans mon commissariat, les paroles racistes, homophobes et machistes fusent tous les jours. Elles émanent de certains collègues et sont tolérées ou ignorées par les autres. Il voit des policiers cogner un migrant noir contre un abribus, puis dans le fourgon de police, tabasser un autre migrant marocain, mettre des claques sur plusieurs gardés à vue, toujours arabes ou noirs de peau. « On va chasser, le sang appelle le sang », entend-il dire par ses collègues qui vont chasser des bâtards. Jusqu'au jour où il participe à l'écriture d'un faux procès-verbal pour couvrir l'un de ses collègues qui a roulé de coups de poing un jeune. Ainsi qu'il le relate à Mediapart, d'un point de vue journalistique, je tiens de l'or. J'ai une bavure avec des éléments de A à Z. Mais en tant que citoyen, évidemment, je ne peux pas l'accepter. Mais je sais qu'en écrivant ce livre, je peux dénoncer les faits et cela peut aussi en convaincre d'autres de le faire. Du faux en écriture publique, c'est 15 ans de prison. C'est pire que de frapper un mineur. Voilà ce que j'ai collecté pour marquer le triste anniversaire du 25 octobre 2014. La mort de Rémi Fraisse. Mort comme tant de nombreuses victimes de la police. Merci de votre écoute. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière Saint-Just comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Citoyens de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette pioule, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen.